Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumni de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les freins au changement, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Épisode 8. Je reçois Antoine, ami de longue date, rencontré pendant mes études à HEC, qui a amorcé un changement de voie professionnelle après un début de carrière dans la publicité. Il nous raconte son passage chez On Purpose et son activité de facilitateur, ainsi que la reprise de ses études il y a quelques mois pour se diriger vers les métiers du soin aux personnes. Bonne écoute. Bonjour Antoine.
Bonjour JP.
Antoine, on se connaît bien parce qu'on est amis de longue date. On s'est rencontrés dans les premiers jours de la rentrée HEC en 2006 et on a tous les deux eu un parcours un peu similaire au début en tout cas dans le monde de la publicité. Et puis assez vite, tu as décidé de changer de voie en rejoignant le programme On Purpose. Tu vas pouvoir nous raconter tout ça en détail, mais avant de démarrer l'interview, je voulais juste te dire que c'est très important pour moi d'avoir cet échange avec toi, parce que tu as été le moteur central de mon changement. Tu m'as amené à me questionner pendant toutes ces années par rapport à la voie que tu avais prise, et ton changement m'a beaucoup inspiré. Donc j'espère qu'il t'aura en inspiré d'autres parmi les personnes qui nous écoutent. Voilà, je voulais juste te dire ça en introduction, et maintenant je te laisse la parole pour nous raconter un peu ce que tu fais aujourd'hui et quel a été ton parcours.
Ok, ben, merci beaucoup pour cette invitation, d'abord, et pour cette introduction qui me touche. Et alors mon parcours et où j'en suis aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est quoi ? Le 19 juin. Et donc j'en suis à une étape qui est encore une nouvelle étape d'émergence. Je travaille un petit peu, mais très peu depuis un an. Le peu que je fais, c'est un tout petit peu de facilitation en entreprise, pour des entreprises, mais vraiment très peu, là, quasiment pas depuis septembre dernier. Et après, je collabore avec une association qui s'appelle Ce que je veux faire plus tard, qui accompagne des jeunes gens entre 13 et 21, 22, 23 ans, pour les aider à prendre confiance en eux, à mieux se connaître, dans l'espoir que ça les aidera, enfin dans la confiance même, pas dans l'espoir, et dans la connaissance même, que quand on se connaît mieux et quand on a confiance en soi, on prend des meilleures décisions pour soi-même, et pour le monde aussi, j'imagine. Donc je travaille avec cet asso de temps en temps, et j'ai commencé là en janvier, j'ai repris des études, donc j'ai commencé une école de philosophie et de psychothérapie appliquée, que j'ai commencé là en janvier, et qui va durer 5 ans, et qui s'inscrit dans le cadre de l'exploration pour moi du domaine de la thérapie, du soin, pour aller compléter un peu la palette des outils d'accompagnement que j'ai développé depuis quelques années.
D'accord. Alors, j'ai plusieurs questions qui me viennent par rapport à ce que tu dis. La première, sur un point de vue un peu définition, est-ce que tu peux peut-être expliquer ce que c'est que faciliter, être facilitateur ? Et puis aussi, par rapport à ce que tu mentionnes sur le fait que tu travailles peu, pourquoi ce choix ? Comment est-ce que tu... quelle a été en fait l'origine ? Est-ce que c'est voulu ? Est-ce que c'est subi ? Enfin, est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail ces deux points ?
Alors, la facilitation, c'est d'abord une posture, je dirais. C'est une posture au service de ce qui doit émerger au sein d'un groupe. A priori, en facilitation, c'est plutôt avec du collectif. Donc, c'est un facilitateur, c'est une personne qui va se mettre au service d'un groupe pour l'accompagner et accompagner au sein de ce groupe l'émergence d'idées, mais aussi d'un certain climat, on va dire. Il va proposer un cadre, des règles, par exemple, très simples, mais en même temps pas toujours faciles à respecter, mais qui peuvent être des règles d'écoute, des règles de bienveillance, des règles, par exemple, de se donner le droit à l'erreur ou de changer d'avis, choses comme ça. Et il va tenir ce cadre. Il va donc encourager au sein de ce groupe un certain climat et un climat qui, par expérience, est favorable à ce que se déploie au sein de ce groupe, un peu le meilleur des individus qu'il compose, et donc est favorable, facilite l'émergence de projets, d'idées, d'un certain fonctionnement, d'une certaine qualité au sein de ce groupe. Ça répond à la question.
Oui, c'est très clair.
Et donc ça, la facilitation, c'est quelque chose que j'ai découvert pendant justement l'année que j'ai passée au sein d'Unpurpose, qui peut être de la facilitation. Ça, c'est très vaste, hein, ça peut être utilisé pour faire de l'innovation, pour faire de la créativité, pour prendre des décisions de manière, disons, plus partagée, avec des outils qui sont plus ceux de la gouvernance partagée, là, par exemple, la gestion par consentement, etc. Enfin, c'est un domaine très vaste que j'ai découvert donc autour de 2016-2017 et que j'ai ensuite exploré en me formant et en ayant la chance de rencontrer des gens qui me proposent de pratiquer la facilitation au sein de leur institution, de leur entreprise, au sein de la tienne d'ailleurs, JP.
Tout à fait.
Au sein après d'institutions très variées, depuis des petites entreprises qui faisaient des jeux vidéo, mais aussi des agences d'archi, puis jusqu'au Conseil de l'Europe, ou des associations. Enfin, c'est un champ que j'ai eu beaucoup de plaisir à explorer. Et pour aller vers ta deuxième question, qui est pourquoi je travaille moins actuellement, disons qu'il y a eu un moment où j'ai senti que, en tout cas, moi, j'étais appelé vers autre chose que ce que je faisais, qui était à l'époque facilité et beaucoup facilité pour des entreprises. J'ai senti que j'avais à la fois le besoin, je pense, pour moi, et puis un appel qui était encore assez flou, mais à explorer ce dont je parlais, c'est-à-dire une pratique d'accompagnement qui tente plus vers le soin, vers la thérapie, que vers certains ajustements au sein d'entreprises. Et donc, pour aller vers cela, il a fallu d'abord que je me détache, c'est-à-dire que tout au fur et à mesure du processus, il y a des moments où l'appel, il est détache-toi de cela, quitte cela, et puis ensuite, quelque chose pourra émerger. Et donc, c'est pour cela que j'ai pris la décision d'arrêter un certain nombre d'activités pour pouvoir créer de l'espace et du temps, une forme de terreau, on va dire, qui soit favorable à l'émergence d'autres choses. Et
D'accord.
donc là-dedans, après, j'avais eu la chance de pouvoir faire ça, c'est-à-dire d'avoir à la fois un petit peu d'argent de côté, aussi le fait que en France, il y a quand même le système du chômage qui fonctionne quand même bien, qui peut permettre d'accompagner ce genre de transition, de recherche, de reconversion, on pourrait dire aussi. Et aussi le fait que j'ai pas actuellement d'engagement trop fort, pas de gros emprunts, pas d'enfants, ce qui me permet aussi de diminuer, on va dire, mes besoins et mon niveau de vie, et donc ce qui fait que j'ai pas besoin de beaucoup travailler en ce moment aussi.
D'accord. Je reviens sur le fait de prendre un peu plus de temps. Qu'est-ce qui t'a gêné? Tu dis que tu facilitais beaucoup dans des entreprises et que finalement tu avais l'impression de faire des petits ajustements. Qu'est-ce qui t'a gêné par rapport à ça et pourquoi tu as senti le besoin d'aller peut-être plus en profondeur sur une réflexion, enfin une aide, on va dire, un peu plus oui, profonde que ce que tu faisais avec la facilitation au départ.
Alors, ce qui m'a gêné, c'est en fait quand on travaille pour une entreprise, on travaille dans le cadre de cette entreprise, on travaille pour la personne qui nous paye, qui n'est pas toujours la personne qu'on accompagne. Parfois, c'est le cas. Parfois, la personne qui nous paye est la personne qu'on accompagne. Et ça, d'ailleurs, c'est les cas où vraiment, j'avais vraiment beaucoup de goût à faire ces accompagnements. Par exemple, travailler avec les fondateurs d'une entreprise qui sont vraiment conscients de ce dans quoi ils s'impliquent quand ils se lancent dans une démarche de transformation et qui laissent réellement le champ ouvert pour explorer. Explorer les différentes dimensions du changement et qui sont prêts en fait à lâcher un certain nombre de choses parce que quand on veut se transformer ça commence d'abord par accepter de quitter la peau précédente. Si on veut pouvoir muer, il faut accepter de se défaire de sa peau, et ça c'est peu le cas en fait dans les entreprises, notamment les grandes entre guillemets les grandes entreprises. Donc il y a beaucoup de J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de missions qui étaient confiées à des facilitateurs, plutôt dans des buts superficiels, c'est-à-dire de remuer un peu la surface, de permettre certaines innovations, surtout de permettre à certaines personnes d'avoir l'impression qu'il y a des choses qui bougent, mais qu'en réalité, dès qu'on commençait à toucher à quelque chose d'un peu plus profond, c'est-à-dire quelque chose qui remettait en question la structure du pouvoir, les structures de décision, enfin quelque chose de plus structurel, en fait ça s'arrêtait tout de suite. Et c'est vrai que j'ai eu envie, en tout cas j'ai eu ce besoin, c'est-à-dire que à la fois je rencontrais des gens que j'accompagnais et on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait de vraiment intéressant au sein d'un groupe par exemple. Sur plusieurs mois de travail d'accompagnement, il y avait vraiment une dynamique, une créativité, une rapidité, une fluidité. Et les gens étaient des gens qui avaient bossé depuis 10 ou 15 ans, c'était comme si le sens de leur métier leur était révélé. Il y a eu ce genre de commentaires qui disaient « Ah, mais je comprends enfin ce que c'est que... Pourquoi je fais ça ?» ou « Ce que c'est que d'être attentif à son client ?» Ce que c'est de faire les choses pour le client, etc. » Enfin, ça reconnectait vraiment profondément à la fois au sens, et ça a donné une très grande efficacité. Et puis après, une fois qu'il était question de réintégrer ce projet dans la grosse machine, là, c'était un peu le carnage. Et en fait, on se retrouvait avec... un an après, il ne s'était rien passé. Et puis les gens étaient un peu retournés dans leur vie, entre guillemets, normale.
D'accord.
Et ça, c'est quelque chose qui me frustrait. C'est-à-dire, je me suis dit... moi, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe si on a la possibilité d'aller plus loin. C'est-à-dire de... Ce changement qu'on pressent, qu'on sent et qui même se matérialise à petite échelle dans des petits espaces, des petits laboratoires. Qu'est-ce que ça donnerait si on avait la liberté d'aller au bout? Et donc, c'est ça qui m'a en tout cas amené à sortir du monde des grandes entreprises où en fait c'est pas possible de faire ce changement de l'intérieur.
D'accord, oui, à part si tu, comme tu disais, si tu as l'aval, on va dire, des dirigeants ou en tout cas des décideurs qui sont vraiment impliqués et qui ont, eux, réellement envie de générer du changement au sein de l'organisation. Et en quoi ce que tu fais aujourd'hui sur l'accompagnement, le soin, te correspond mieux que ce travail-là? En quoi tu vas plus loin à ce niveau-là? Puisque en fait, alors dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que là, maintenant, le travail d'accompagnement sur lequel tu es en train de te lancer, c'est quelque chose qui est plus personnel, donc où tu vas travailler avec des individus, alors que le travail de facilitateur, c'était effectivement un peu plus avec des entreprises ou en tout cas des organisations.
Ouais, alors effectivement, aujourd'hui, ce que je fais, c'est plutôt orienté sur la transformation d'un individu, ou en tout cas un travail individuel, mais qui est souvent fait en collectif. Hein, quand je travaille avec l'association dont vous parlez, ou avec d'autres associations dans d'autres espaces, il y a cette dimension collective et individuelle en même temps. Ce qu'il y avait aussi déjà dans le cadre de la facilitation, au sens où en réalité... transformer une organisation, c'est pas l'organisation contre l'organisation, c'est les individus qui la composent quelque part. Oui. Donc ça suppose toujours qu'il y ait des transformations individuelles, des prises de conscience, de pouvoir débloquer en soi quelque chose et sentir qu'en fait on peut faire différemment, on peut penser différemment, on peut agir différemment, et imbriquer ces transformations individuelles Dans un collectif, c'est effectivement assez difficile. Et c'est pas quelque chose auquel j'ai renoncé du tout. Mais disons que là, aujourd'hui, ce qui a changé, c'est peut-être déjà que la personne qui choisit de venir, qui, entre guillemets, qui paye aussi, hein, parce que ça fait partie de la relation, d'accompagnement, donc qui cherche à être accompagnée, celle qui paye et le client. Tu vois ce que je veux dire? C'est
Oui,
contrairement
tout à
à
fait.
l'entreprise où il peut y avoir une différence. Donc il y a une notion de responsabilité et de liberté qui est plus forte, à la fois pour lui et aussi pour la personne qui accompagne. C'est-à-dire que tout se passe dans un cadre, dans ce cadre-là. Après, c'est quelque chose que je suis en train d'explorer au sens où c'est nouveau. C'est pas c'est là par exemple. Pour tout ce qui est en tout cas d'une relation vraiment de soins, de thérapie, c'est pas quelque chose que je pratique aujourd'hui. J'ai de nombreux stages à faire et de nombreuses découvertes à faire dans ce métier-là. Je sais pas du tout ce qui m'y attend. Et ça fait partie de la trajectoire et un peu de l'excitation. Et donc je peux pas complètement répondre à la question.
Ouais, bah, pas de souci. Je te propose de partir un peu en arrière pour que au moment où tu as eu ton premier changement, puisque tu travaillais dans la publicité il y a quelques années, et puis tu as décidé de rejoindre On Purpose. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu quelle a été ta démarche, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que tu as fait chez On Purpose, en quoi ça t'a donné envie après d'aller vers ce métier de facilitateur dans un premier temps?
Ouais. Ça fait plein de questions en même temps. Tu veux que je commence par
Tout à
quoi?
fait. Commence par qu'est-ce qui a fait que tu as quitté la pub?
Yes. Alors, déjà dans l'intro, tu as dit assez vite, tu veux partir de votre purpose. Alors, c'est vrai que d'ici, ça peut s'en. Non, en fait, non, ça s'est pas fait assez vite. Ça m'a pris quand même 5 ans, même un peu plus, bien 5 ans et demi. Et c'était long. Et c'était difficile parce que j'avais très peur et puis j'avais pas du tout l'habitude d'écouter mon cœur peut-être et donc ça m'a pris très longtemps d'arriver à trouver l'espace de sincérité avec moi-même où j'arrivais à être ouais suffisamment au calme et en paix avec la vérité qui était pour moi à l'époque que en fait, j'étais pas du tout à ma place, mais que je savais pas du tout non plus où était ma place. Et donc, en fait, j'ai passé quand même 5 ans à essayer d'en partir, d'y rester en critiquant, enfin, d'être à moitié là, à moitié pas là. Enfin, c'était vraiment difficile comme période, un peu dans la lignée, de toute façon, des études de mes études à HEC. Je dirais qu'il y a eu quand même 10 ans de contradictions profondes avec moi-même et que ça m'a pris ouais, à peu près 10 ans pour arriver à juste être suffisamment serein, peut-être confiant pour dire bah, en fait c'est pas ici que je dois être, ça je le sais, la seule chose que je sais c'est que c'est pas ça quoi, c'est pas pour moi, c'est pas le bon endroit, il y a quelque chose qui colle pas. Je sais pas du tout ce que ça peut être d'autre, mais je veux avoir la confiance dans le fait qu'il y a autre chose et donc de me mettre un peu en mouvement pour chercher et suivre, enfin explorer, suivre un peu cet appel qui dit c'est pas ça, c'est pas ça.
Tu voulais être un peu volontariste dans ta quête et pas attendre voilà, que ça te tombe dessus, entre guillemets, d'avoir une révélation, mais partir en exploration.
Ouais, ben je crois que c'est enfin, volontariste. Après, vraiment, je dirais que j'ai tout fait pour ne pas le faire. C'est-à-dire que j'ai vraiment passé longtemps, vraiment peut-être voilà, 28 ans de ma vie pour ne pas faire ça, quoi. Pour ne pas être libre, pour ne pas. Enfin, non pas que je sois libre aujourd'hui, mais peut-être un peu plus qu'à l'époque, en tout cas. Mais pour ne pas faire ce pas de confiance en fait, qui est un pas à la fois de foi et de confiance dans le fait qu'il y a autre chose que ce qui était là à l'époque et qui convenait pas manifestement à tous les endroits, enfin c'était évident quoi. Et non, je me suis beaucoup contorsionné, j'ai vraiment essayé beaucoup de positions très emberlificotées et inconfortables pour rester dans ce soi-disant confort.
Et comment t'as senti que ça t'allait pas? Qu'est-ce qui t'a fait réaliser que bah, non, t'étais pas à ta place?
Bah, c'est mille trucs, quoi, franchement. C'est déjà pas se sentir bien, pas se sentir joyeux dans ce qu'on fait, pas sentir que ça a du sens, pas sentir. C'est plein d'exemples. Enfin, ça peut être par exemple quand on parle de ce qu'on fait, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on sent que ça fait vibrer quelque chose en nous de l'ordre de l'authenticité, de la sincérité, de l'ordre de la joie aussi, et que quand on en parle, ça fait aussi vibrer la personne d'en face, c'est-à-dire je parle de ce que je fais et puis. Eh ben, il se passe quelque chose aussi en moi et en face, parce que forcément, s'il se passe quelque chose en moi, il va se passer quelque chose en face. Quand quelqu'un parle de quelque chose qui l'anime, ben, la personne en face est elle aussi animée. Et donc ça, typiquement, moi, j'avais l'impression de passer mon temps à m'excuser de ce que je faisais. Déjà, quand j'étais en école, c'était pareil. Enfin, une espèce de truc un peu un mélange de culpabilité et puis de colère, quoi, contre la manière dont ce système fonctionne, celui enfin, de la publicité, du capitalisme libéral enfin, assez largement ce monde, enfin, qui nous gouverne, en tout cas, les puissances qui nous gouvernent. Beaucoup de colère contre celle-ci, et en même temps, une forme de culpabilité de quelque part collaborer à ça, quoi. Et ça, c'est hyper inconfortable parce que en fait, tu es vraiment en conflit avec toi-même à l'intérieur. Tant que tu restes dedans, il y a ce conflit. Le conflit, il est à l'extérieur, mais tu l'intériorises. Et donc, soit tu t'autodétruis, c'est-à-dire en fait, tu meurs de ce conflit petit à petit. Hein, ça ne veut pas forcément dire que tu meurs instantanément, mais tu conduite autodestructrice, fuite. Consommation d'alcool, de drogue, un peu tout ce que tu veux, toute la panoplie d'autodestruction. Ou alors et en même temps, souvent, tu développes une forme de cynisme un peu, parce que il faut bien arriver tu vois, vivre avec soi-même quand même, quoi. Et donc, si en fait, tu vives avec le conflit, parfois, voilà, tu t'ouvres les vannes et oui, tu t'enfuis, tu fais la fête, tu t'agites dans tous les sens. Et puis, d'autres fois, tu développes une sorte de pensée un peu cynique pour éviter d'avoir affaire avec la voix qui, au fond de toi, te dit, c'est pas ça. Oui, donc je dirais qu'au fond, c'est quelque chose que j'ai toujours su. J'ai toujours, au fond de moi, enfin, de toute façon, au fond de nous, il y a quelque chose qui sait toujours si on est au bon endroit ou pas.
Oui.
On n'est pas toujours en capacité de l'écouter et de la prendre au sérieux. Mais moi, j'ai toujours eu l'impression que oui, c'était là. Et c'est simplement que il a fallu qu'à un moment, il y ait, je sais pas, une forme de grâce un peu qui permette d'écouter vraiment ça et d'avoir foi en ça et de dire, allez, lève-toi, marche et va.
Donc, si je reprends, donc tu es dans cette situation inconfortable et tu te dis, bon, ben non, là, c'est plus possible, c'est plus tenable, je veux faire autre chose et je veux partir explorer. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais?
À ce moment-là, non, mais déjà, il y a eu un truc, enfin, vraiment, je pense que ce qui a été super important, ça a vraiment été ce moment où c'était plus possible de mentir. Et ça, c'était formidable, quoi. C'était un truc, waouh! Enfin, c'était plus possible, c'est-à-dire que je crois que j'explosais. Je me souviens du jour où j'avais pris ma décision. Je suis arrivé au bureau, j'ai ouvert mes mails, il y avait 100 mails, et j'ai regardé les mails, et c'était impossible de les lire, c'était impossible, j'ai l'impression que j'allais exploser, c'était pas possible, quoi. Donc je me suis tourné vers mon boss qui était à ma droite, et je lui ai dit, il faut que je te parle. Et là, je lui ai parlé pendant 10 minutes, où je lui ai expliqué, en gros, il faut que je me barre, parce que juste, c'est plus possible, j'y arrive pas, j'y arrive plus, de toute façon, ça a aucun sens pour moi, ce que je fais là, ça en a jamais eu en réalité, et là, j'ai atteint le point où c'est plus possible. Donc, il faut que je parte, voilà, faut que je parte, et je sais pas du tout où je vais aller, mais je sais qu'il faut que je parte. Et à la fin de cette espèce de diatribe ou de confession, il m'a répondu, on parlait en anglais parce qu'il parlait anglais, et il m'a répondu, I'm the same.
Ok.
Et ça, c'était très fort, c'est-à-dire qu'en fait, ça s'est reproduit, j'ai parlé avec. 8 ou 9 personnes de l'agence dans laquelle j'étais à l'époque, qui étaient enfin, des dirigeants de l'agence, des dirigeants de différents services, et qui m'ont tous écouté vraiment avec cette même attention et avec souvent une forme de... Il y avait quelque chose en eux qui se reconnaissait. Et c'est comme s'ils m'encourageaient, c'est comme si... En fait, d'avoir trouvé cet espace où en moi je ne mentais plus, qui était un espace de sincérité, qui me soit donné de pouvoir être dans cet espace, ça créait un truc formidable, c'est-à-dire que il y avait une écoute en face très naturelle où les gens, ils essayaient plus de me convaincre, personne n'essayait de me convaincre de rester, sauf une personne, ce qui avait toujours été le cas dans les années d'avant quand j'essayais de partir parce que je n'étais pas clair, et donc on arrive à me trouver un moyen de rester là. Plus personne n'essayait ça et tout le monde était d'abord très compréhensif, très souvent me partageait des pensées très similaires, des doutes similaires, des moments de leur vie où ils avaient été très 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 tentés de faire la même chose et puis finalement ils ne l'avaient pas fait parce qu'ils avaient une promotion, ou ils avaient fait un troisième enfant ou X ou Y, mais en fait il y avait vraiment quelque chose de l'ordre d'une solidarité à cet endroit-là très beau de « c'est génial, vas-y, comment je peux faire pour t'aider ?» Donc ça c'était super fort et ça m'a fait, c'était très puissant pour avancer quoi, parce que c'est déjà une forme de première réponse quoi, de se dire bon il y a eu un appel, je réponds, je me livre quelque part, et puis là tout de suite on te renvoie quelque chose qui te touche profondément et qui donne pas mal d'énergie pour avancer. Et donc après, j'ai ouvert, j'ai commencé à chercher quoi. Je me suis dit, je sais pas du tout. Franchement, je sais pas du tout quoi. Je sais que c'est pas ce que je fais maintenant. Je sais que ça doit être autre chose. Il y avait un truc qui m'a guidé assez rapidement, qui est venu, où je me suis dit, j'ai envie de pouvoir ressentir sur le visage des personnes avec qui je travaille ou pour qui je travaille que j'ai été utile. Comme par exemple un sourire. Je me disais. Ça c'est un truc tangible auquel je peux m'accrocher, c'est-à-dire je fais quelque chose, je travaille, et à la fin de la journée, ou quand je fais ça, y a un sourire, il y a quelque chose, il y a un regard, il y a quelque chose sur le regard des personnes avec qui je bosse ou pour qui je bosse, qui me dit « waouh, là, t'as été utile » ou « ça a du sens » ou... J'avais envie de sentir ça. Et je me disais, franchement, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être peut-être travailler dans un bar, ça pourrait très bien être ça. D'ailleurs, je l'ai fait, enfin, j'étais vraiment très très ouvert. Je me disais, j'ai envie de tester plein de trucs. En fait, j'ai jamais vraiment testé dans ma vie. Voilà, j'ai 28 ans. Il est temps de un peu commencer à vivre, en fait. C'est comme si c'était ouais, c'était ça, quoi. Comme si, au fond, avant, j'avais jamais vraiment essayé quoi que ce soit. Et que là, il était temps de commencer à essayer les choses pour de vrai, quoi. En tout cas, ce qui est fort à ce moment-là, il y a une énergie en tout cas qui se dégage, qui est à la fois, il y a à la fois un truc un peu terrifiant et en même temps un truc hyper excitant, il y a une vigilance à avoir au sens, j'ai très vite ressenti que si je créais pas un cadre pour cette exploration, j'allais très vite retomber dans justement le passé, dans le connu, dans j'allais très vite sans doute retrouver un boulot ou quand on allait me proposer quelque chose, j'allais accepter. Et puis bon, donc je me suis dit, il faut que j'avais envie d'explorer plein de trucs. Et je me disais, je vais faire du bénévolat, je vais être servir dans un bar, je vais voyager, je vais tester des choses en freelance, etc. Mais au fond, je sentais bien que j'avais pas la force de faire ça à l'époque. J'étais pas suffisamment ancré, j'avais pas suffisamment d'expérience d'être à la fois ancré et connecté au monde. Et donc c'est là que j'ai trouvé le programme On Purpose. C'est un programme qui s'adresse à des personnes qui ont travaillé minimum 3 ans et en moyenne 5 à 6 ans et qui cherchent du sens, qui cherchent en fait à s'orienter vers les métiers ou vers les entreprises plutôt de l'économie sociale et solidaire et assez largement d'entreprises, d'associations, d'institutions qui sont dans ce domaine-là. Et la proposition d'On Purpose, c'est de passer 2 fois 6 mois à travailler à plein temps dans une de ces organisations. Donc on va faire 2 CDD de 6 mois chacun dans une organisation d'économie sociale et solidaire. Dans mon cas, ça a été 2 associations, une qui travaillait dans l'éducation, l'autre qui travaillait dans le microcrédit. Et à côté donc de ces, donc on fait 35 heures dans ces boîtes-là, et tous les vendredis après-midi on a une formation, donc on est rassemblés, c'est des petites promos, on était 13 nous, Et on a des formations assez variées. Et surtout, on est ensemble, en fait. Et il y a donc ce côté communauté de chercheurs, d'explorateurs, de personnes qui sont en transition. Et ça, c'est très important. C'est très important dans ces périodes-là, parce qu'en fait, si réellement on est en train de changer, alors on est en train de s'aventurer dans l'inconnu. L'inconnu, c'est forcément flippant, c'est forcément nouveau, c'est forcément déroutant. Et donc, quand on est dans quelque chose de nouveau, déroutant, flippant, très très souvent, quand même, on a des tentations de retourner en arrière, de revenir vers le connu, qui sont tout à fait naturelles, en fait. Voilà, donc ça, c'est. Oui, je parlais d'un cadre. Et en fait, voilà, moi, je sentais que j'avais besoin de ce cadre. C'est-à-dire, je pressentais que si je n'avais pas un cadre, en fait, j'allais reprendre. Enfin, j'allais pas tenir longtemps dans l'exploration. Alors que là, le purpose, ça permet vraiment d'aller dans la matière, en fait. Il y a un moment où explorer, c'est concret, quoi. Un explorateur, il part dans la jungle, il n'y a pas de sentier, quoi. Il va devoir tracer un peu son propre sentier. Et donc, il a besoin d'une machette. Et puis, c'est mieux quand même s'il a des copains avec lui qui le relaient. Et puis, quand le soir, qu'il fait nuit et qu'il y a des bêtes bizarres qui font du bruit dans la jungle, on n'est pas tout seul, on fait un feu, on papote, c'est sympa, quoi. Ça aide. Donc, ça, c'était vraiment puissant, cette petite communauté Hunter Post. D'ailleurs, je me suis fait beaucoup d'amis et aussi développer un nouveau type de relation qui est pas comme une amitié élective, mais qui a quelque chose de l'ordre de la solidarité, de, en fait, on partage le même destin, on partage la même recherche, on est solidaire, et ça, c'est très fort. C'est assez nouveau pour moi, ce sentiment-là. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans, voilà, les sports collectifs. Mais à un moment, un groupe qui se forme, oui, qui se forme, on est 13, on continue à se voir à 13 tous les ans. Et ouais, ça a été quelque chose d'assez déterminant et qui s'est reproduit ensuite à toutes les étapes de transformation. Ça a été une première étape, Hunter Post, et depuis, il y en a eu à nouveau peut-être une, deux, trois. Et à chaque fois, il y a à la fois la communauté joue un rôle très fort, je trouve, pour pouvoir ancrer le changement, pour pouvoir que ce changement il s'inscrive dans la matière, que ce soit pas juste un truc spéculatif où on dit qu'on va faire un truc et puis on le fait pas vraiment. Alors que quand on est plusieurs et que on partage ça ensemble, il y a quelque chose qui va plus loin.
D'accord, il y a une émulsion du groupe qui fait que, enfin, vu que les autres vont aussi dans le même sens, ça inspire, ça aide, ça soutient, et c'est du coup plus facile d'avancer dans cette prospective.
Ouais, plus facile d'avancer, et aussi ça permet encore, comme je disais, franchement, souvent enfin, il y a à la fois avancer. Mais des fois, en fait, quelque part, une fois qu'on a fait le saut, c'est comme si c'était, il y avait quelque chose qui était vraiment grand ouvert. Et il y a vraiment cette tentation de reculer, quoi. Très souvent, il y a vraiment un truc genre, putain, je me barre là. En fait, qu'est-ce que je fais? C'est n'importe quoi. Je suis en train de faire un boulot de stagiaire, mal payé. J'ai 30 ans. Je suis pas du tout à l'endroit. Enfin. Et on se dit, mais non, je fais n'importe quoi, je pars de là. Moi, ça m'est arrivé, ça arrivait à tout le monde presque. Et en même temps, de pouvoir en parler avec d'autres, se rendre compte qu'en fait, on a tous eu ce moment-là, que en fait, ces idées qui nous viennent, c'est des peurs qui trouvent une forme, mais qui en fait sont des. Voilà, c'est des peurs qui cherchent à nous faire rester dans le connu. C'est encore des nouvelles manifestations de ce qui cherche à nous faire rester dans le connu. Si on est tout seul, on ne s'en rend pas compte. Si on est seul, on se dit, ouais, vraiment, c'est n'importe quoi, je ne suis pas bien traité. Et on continue à chercher à l'extérieur quelque chose. Alors que si on est ensemble, on a une chance de se rendre compte que, ah, en fait, tout le monde a vécu ce truc-là et les autres l'ont dépassé. Donc ce que je dis, c'est peut-être inhérent au processus dans lequel je suis. Et peut-être que ce qui t'a changé, c'est pas l'environnement dans lequel je suis, c'est peut-être là qu'il faut persévérer avec moi-même, avec cette partie un peu sombre de moi-même, la regarder un petit peu mieux. Et peut-être que c'est en faisant ça qu'il y a la possibilité là d'avancer quelque part, ou au moins de ne pas reculer, et donc de pouvoir avancer demain, si je ne recule pas aujourd'hui.
Et c'est d'autant plus compliqué, j'imagine, quand ton entourage n'est pas dans le même processus que toi. Bon, alors c'est facile pour moi de le dire puisqu'on se connaît et que je me souviens bien de cette période-là que toi tu as vécue. Et c'est vrai que tes amis n'étaient pas forcément dans le même setup ou dans la même mouvance. Et ça peut être compliqué aussi de se dire, oh là là, mais regarde, eux, ils ont tous des bons salaires, tu vois, on sort, c'est facile, etc. Ils me regardent comme si j'étais un peu un extraterrestre de temps en temps, ou en tout cas, j'ai l'impression, mais qu'est-ce que je fais?
Ouais, bah, alors moi, je me suis vraiment pas senti comme ça à ce moment-là. En fait, vraiment... Non, ça, bizarrement, tu vois, c'était des choses que je pouvais me dire avant. C'est-à-dire D'accord. que j'ai quand même choisi la pub, qui n'est pas vraiment le métier le mieux payé en sortant d'HEC. Voire même, c'était pas du tout un choix économique, entre guillemets, quoi. Et ça, je me le disais avant. D'ailleurs, je me disais, putain, mais t'es vraiment con, Antoine. Déjà, tu fais un truc qui n'a pas de sens pour toi. Et en plus, tu gagnes pas... bien, vraiment, t'as dit ça, entre mon emprunt et tout. Enfin, j'étais déficitaire pendant les trois premières années de loin, entre rembourser mon emprunt, payer mon loyer. Je galérais, quoi. Et donc, c'était comme si je me punissais un petit peu à l'époque. Mais non, là, franchement, dans ce moment-là, il n'y a pas eu ce truc-là. C'est-à-dire que moi, vraiment, en tout cas personnellement, du moment, en fait, il y avait cette énergie du fond, là, du cœur qui dit c'est le bon chemin. Et là, vraiment, il y a un truc de très, très puissant, moi, je trouve. Enfin, en tout cas, plus du tout, je me suis dit, je pourrais gagner plus d'argent. Enfin, ça, c'était pas du tout quelque chose qui me. Enfin, je crois vraiment pas. En tout cas, je m'en souviens pas et c'était pas quelque chose qui me touchait. Non, c'est plus ce qui est flippant, c'est je sais pas où je vais, quoi. Ce qui est flippant, c'est il y a des moments où, en fait, on est en train d'enlever des structures. C'est-à-dire que. Avant, il y avait un truc assez simple de se dire, bon, ben, je suis salarié. J'ai mes rendez-vous annuels, j'ai mon évolution de carrière, je suis dans une structure et je progresse là-dedans, j'ai mon couple, je suis dans un couple, je me projette là-dedans, je vais faire une famille, je vais faire des enfants. En fait, toute la vie est comme déjà structurée par un certain nombre d'institutions préalables et dans lesquelles tu t'inscris, quoi. Alors que là, quand tu commences à changer et que tu commences en fait à changer radicalement, t'es en train de défaire ces structures à l'intérieur de toi, quoi. Donc, quand tu défais les structures, y a plein de trucs qui tombent, il y a plein de trucs qui s'effondrent, et puis il y a les moments où ça va bien, et là c'est génial parce qu'il y a un truc où on se rend compte qu'on peut être libre vraiment, et par instant on se sent vraiment libre, et c'est très fort parce que on sent tout ce poids là des structures, il nous empêchait aussi de nous mouvoir. Donc il y a des moments où on sent que on s'est libéré de certaines structures et c'est très exaltant. Et puis il y a des moments où on va un peu moins bien pour une raison ou pour une autre et ou alors on est plus dans notre côté ombre, on va dire. Et là on peut plus vraiment s'appuyer sur ces structures, donc il y a moyen de plonger un peu profondément, quoi. Et là c'est flippant. Et c'est pas une histoire de salaire, c'est un truc plus profond, quoi. C'est un truc qui a à voir avec pourquoi j'appartiens, qui je suis, des questions, enfin tout, qui sont. Et là où ça fait du bien d'avoir des ressources, quoi, des ressources qui, je pense, dépassent. C'est-à-dire que, ouais, des ressources d'ordre. J'ai envie de parler de ressources spirituelles quelque part, de philosophie spirituelle qui peuvent nous aider à nous inscrire. Dans quelque chose de plus large, de beaucoup plus large que parce que ce système dans lequel on vit, voilà, il est très puissant, il est très destructeur aujourd'hui, il est complètement hégémonique, mais finalement il reste un phénomène qui a quelques siècles, mais on vient de beaucoup plus loin que ça, et donc ça peut être intéressant quand on cherche à changer. En changer en profondeur, il faut aussi arriver à s'ancrer en profondeur. Et donc, moi, personnellement, ce qui m'a aidé, ça a été à la fois, comme j'ai dit, voilà, c'est les échanges, l'aspect, la communauté de lien entre des personnes qui d'abord cherchaient à changer de vie, donc avec un purpose, donner plus de sens à ce qu'ils faisaient. Mais ensuite, très vite, je me suis rendu compte que quand on cherche à donner plus de sens, ça dépasse très largement juste le travail, quoi. En fait, c'est beaucoup plus profond. Et là, ça a été rencontrer d'autres personnes, d'autres communautés, de personnes qui cherchent du sens, au sens fort, je dirais, pour sortir d'un, en fait, d'un rapport purement quantitatif et matérialiste au monde, où je cherche à posséder, accumuler, produire, calculer, évaluer. Donc, je suis vraiment voilà, dans un rapport matérialiste et quantitatif au monde, même dans les dimensions qui ne le sont pas, c'est-à-dire même les dimensions sentimentales, amoureuses. On vit dans, enfin, on est complètement dans ce rapport matérialiste et quantitatif au monde. Enfin, en tout cas, moi, j'y étais. Et ouais, c'est comment pour en sortir? C'est vrai qu'il faut aller puiser quoi, puiser quelque chose de d'au moins aussi puissant. Parce que si on n'arrive pas à puiser quelque chose d'au moins aussi puissant, ben forcément on est rattrapé, quoi. Donc ça, c'est tout le, ouais, tout le travail. Et tu as parlé, ouais, de rituels, d'études. Moi, ça a été effectivement, et de spiritualité, ça a été une, se connecter à cela, se connecter aux traditions, se cultiver d'un point de vue spirituel, et puis pratiquer quotidiennement dans le sens de renforcer cet ancrage dans quelque chose de plus puissant que ce que je cherche à combattre.
Tu veux en parler un peu, nous expliquer quels sont les rituels dans lesquels tu es allé puiser, comment tu fais aujourd'hui, enfin, quel nouveau cadre un peu tu t'es créé ou tu t'es ouais, ou tu utilises aujourd'hui qui t'a permis de bouger?
Ben, il y a eu un voyage en Inde qui a été marquant, surtout par des lectures que j'y ai faites, et par l'espace qu'il a proposé juste avant une purpose. Ça a été la découverte de textes hindous, comme la Bhagavad Gita, qui est au sein du Mahabharata, cette mythologie-là, et puis cette doctrine-là qui m'a touché. C'est-à-dire, j'ai été touché pour la première fois. Au cœur là, c'est-à-dire c'est pas un truc, c'était pas intellectuel, c'était pas ah, tiens ils pratiquent tel et tel rite, le sacrifice, ils sacrifient des animaux, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi ils font ça. Je me suis posé ces questions, pourquoi ils font ça, et petit à petit j'ai commencé à comprendre que dans la pratique rituelle il y avait une recherche de transformation, c'est-à-dire qu'on cherchait quelque part on se sacrifiait soi, mais on sacrifiait la part de soi qui est mortelle, on sacrifiait ce qu'on appelle l'ego. On la sacrifiait à, là, dans la tradition hindoue, à la divinité. On se mettait ainsi sous ses auspices pour recevoir d'elle quelque chose d'infini. C'est-à-dire que finalement, on sacrifiait quelque chose de fini, c'est-à-dire notre petit moi limité, et on recevait. De ce à quoi on avait sacrifié quelque chose d'infini, c'est-à-dire un peu d'unité, un peu d'infinité, un peu de conscience unifiée du monde et des choses. Et j'ai commencé tout doucement à pressentir ça, là, en lisant, en me promenant en Inde, dans ces rues agitées, avec tous ces multiples temples et ces dizaines de religions mélangées. Il y a quelque chose qui s'est éveillé là-dedans et qui disait, ah, en fait, voilà le sens d'un rituel. Voilà pourquoi on prie, voilà pourquoi on médite, voilà pourquoi on sacrifie. Voilà quelle est cette recherche. Ça a été vraiment un moment fondateur et qui a amené ensuite des rencontres. Et je dirais que la rencontre la plus forte, ça a été la rencontre du Sésame, le centre Sésame, qui est un centre de. Qui est défini comme un centre de culture spirituelle, qui a été fondé par un philosophe qui s'appelle Abdennour Bidar et une psychologue qui s'appelle Inès Weber, qui cherchait à proposer un espace pour partager, échanger autour des grandes questions de sens que l'humanité se pose depuis des millénaires, et pour pouvoir se nourrir des grandes traditions philosophiques, des grandes traditions spirituelles, des grandes traditions religieuses, se nourrir des réponses à la fois mythiques, doctrinaires, dévotionnelles, que ces grandes traditions ont apportées au cours de l'histoire de l'humanité à ces questions. Et ça, c'est un lieu qui a été et qui continue d'être, là, je continue, enfin, dans lequel qui a été très fort très important pour la construction de cette culture, de cette pratique, pour nourrir ce lien à mon moi profond, on pourrait dire, ou ce lien à l'autre aussi.
J'en profite, ça me fait penser à une discussion qu'on avait eue aussi. Je trouve que ce qui est très intéressant dans ce que tu décris, dans le parcours que tu as eu sur ces dernières années, c'est aussi le fait que la transition en fait n'est jamais terminée et que c'est une évolution permanente qui continue, et il n'y a pas de « avant j'étais comme ça et maintenant voilà, j'ai fait ma transition et je fais ci et c'est terminé ». On continue à se nourrir et à évoluer en permanence, et je trouve que ton parcours le montre très bien. Et au final, ça peut paraître parfois un peu flippant aussi, je trouve, de se dire, en fait, il y a pas de ligne d'arrivée. On n'est jamais réellement arrivé. On continue à évoluer et à transitionner tout au long de sa vie.
La ligne d'arrivée, c'est la mort.
oui, c'est vrai.
Et on a même, tout le monde a tous la même ligne d'arrivée, on termine tous de la même manière. Et avant ça, a priori, enfin, dans le meilleur des cas, avant la mort, c'est la vie. Et la vie, c'est effectivement changement en permanence. C'est la vie est toujours en train de se transformer, d'évoluer. Et donc, si on est vivant, on est forcément en train d'évoluer et de se transformer. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'on est tout le temps en train de tout changer sur le plafond. Mais pour autant, penser que on arrive ailleurs que dans sa tombe, je crois qu'il y a quelque chose de mortifère dans l'idée d'arriver, l'idée d'arriver ou d'être arrivé.
Alors, j'aborde ce sujet, pourquoi ? Parce que pour moi, c'est un rapport aussi au fait de se dépêcher, de courir aussi en permanence pour dire « Ah, il faut arriver, il faut faire ci, c'est l'objectif, et puis après, c'est terminé. » Et qui, je trouve, est complètement faux, en fait. Il y a une histoire de chemin qu'on parcourt, et quand on réalise, en tout cas, ça a été mon cas, donc je ne sais pas si tu l'as ressenti de la même manière, quand on réalise qu'en fait, ce qui est important, c'est ce qu'on vit à travers le chemin et qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée autre que la mort, comme tu le dis, on prend un petit peu plus de temps et on arrête en fait de courir et on commence à apprécier les choses qu'on vit concrètement au jour le jour et pas seulement à regarder au loin là où on est censé arriver.
Ouais, tout à fait. Et cette notion de se dépêcher, d'arriver vite, de performance en fait, elle est très liée, encore une fois, aux valeurs du monde dans lequel on vit, qui est un monde, encore une fois, tout entier tourné vers la performance, vers la quantité, vers le matériel. Et donc, quand on est tourné vers la performance, la quantité, le matériel, on le pense en termes de rapidité, de quantité, de montant. Et en fait, c'est là que c'est très très pernicieux, parce que, comme je le disais, ces structures, en fait, elles sont vivantes en nous. C'est-à-dire qu'on a grandi là-dedans, on a été biberonné là-dedans, toute notre culture aujourd'hui en est imbibée, mais jusque dans des... Pas partout, parce qu'il y a plein de gens. Hier, j'ai pris un BlaBlaCar avec une jeune fille qui travaille comme kiné depuis un an et que j'ai trouvé formidable. Justement, avec un ancrage, une sagesse et un calme qui m'ont beaucoup impressionné, une douceur. Donc, il y a beaucoup de raisons d'espérer. Et puis, quand je travaille avec les jeunes, je le vois aussi qu'il y a. En fait, il y a autre chose que. Il y a tellement autre chose que ça en nous. Mais pour autant, ce qui domine le monde aujourd'hui, ce sont ces valeurs-là. Ce sont ces logiques-là, ces logiques de performance, ces logiques d'efficacité. Il suffit de regarder le sport, par exemple, ce que c'est devenu. C'est très très dur de s'en défaire. Et donc, un des risques, c'est en fait de se dire « Ah, je fais une transition, mais en fait, je continue d'appliquer exactement les mêmes logiques. Et donc, dans ma transition, je veux arriver vite. Et ouais, donc là, c'est en fait, on refait exactement la même chose différemment, mais ça reste la même chose en fait.
Oui, je suis d'accord. Ça a été pas mal mon cas sur ces deux dernières années. Essayer d'arriver vite à chaque fois, avant de comprendre tout autre chose. Il y avait un autre sujet qu'on a un petit peu abordé, pardon, mais qui est lié aussi à ce que tu viens de dire sur le rapport au temps, sur les notions de performance, mais qui est celui du travail, du rapport au travail. Et puisque aujourd'hui, donc, je répète, tu as fait le choix de travailler moins pour prendre plus de temps et aussi te poser plus de questions par rapport à ce que tu faisais avant, ce que tu as envie de faire, etc. Mais comment est-ce que tu envisages toi, le travail aujourd'hui? Comment est-ce que tu envisages tes activités? Comment est-ce que tu envisages un peu ton avenir proche?
Bah là, pendant que tu parlais, il y a le mot œuvre qui m'est venu. J'ai une amie qui dit ça justement, avec qui on anime dans cette association, et qui dit souvent, moi j'envisage le mot travail, je le remplace par le mot œuvrer. Et je trouve plus de sens à œuvrer qu'à travailler. Et bon, après, je trouve qu'il y a une... Je ne sais pas d'où vient exactement le mot œuvre, mais il y a peut-être un peu la dimension de l'œuf aussi. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de... Peut-être de l'ordre de la création, de quelque chose qui vient de quelque part profondément en soi et qui vient rencontrer quelque chose dans le monde ou qui vient s'inscrire dans la matière. Il y a un peu cette idée de réalisation. On réalise une œuvre et dans une œuvre, on réalise ce qu'on est et en même temps, on en fait profiter au monde. On fait bénéficier le monde de peut-être ce qu'il y a de meilleur en nous. Et ça, je trouve que c'est intéressant comme conception du travail ou de l'œuvre, de se dire partir de l'idée que si on est ici, on a tous chacun quelque chose de merveilleux, de génial à partager avec le monde, et que ben, c'est pas facile de faire éclore cela. Donc il y a déjà un travail qui consiste à aller puiser en soi cela, ce qu'on a à faire partager au monde, et puis une fois qu'on l'a trouvé, œuvrer à le partager, en ayant la foi dans le fait que si on est là-dedans, il n'y aura pas grand-chose d'autre à quoi se préoccuper. C'est-à-dire que c'est ça qui importe et que le reste sera pris en charge par surcroît.
Antoine, on va arriver à la fin de cet échange. Et je voulais savoir si tu as un message ou un conseil, si tu pouvais revenir dans le temps, te téléporter à l'époque des agences de publicité dans lesquelles tu travaillais et que tu pouvais parler à cet Antoine-là, qu'est-ce que tu lui dirais ?
D'avoir confiance.
Et par rapport aux gens qui aujourd'hui sont en train de faire des études ou qui sont en poste et qui se posent des questions, est-ce que tu aurais un conseil ou un message aussi ?
Ouais, ben, quand je dis la confiance, c'est... Il y a des textes de Ralph Waldo Emerson qui parlent de la confiance en soi. Et là, j'en ai un petit bout sous les yeux. Il dit « Croire à notre propre pensée, croire que ce qui est vrai pour nous dans notre cœur est vrai pour tous les hommes, cela est le génie. » Et je dirais cela. On a tous un génie personnel. On a tous ce génie en nous. Et ce génie, le cultiver, c'est déjà y croire. C'est-à-dire, en fait, c'est cette voie-là. Qui nous parle, qui détient les clés, je m'arrête là. Et donc avoir confiance en soi profond, avoir confiance en cette voie, la cultiver, se consacrer à cette voie, donner un espace pour lui permettre de s'exprimer, ça peut être en écrivant, ça peut être en méditant, ça peut être en faisant de l'art, ça peut être... Enfin, donner un espace à ce lien avec ce soi profond le cultiver et avoir la foi en cela. C'est en tout cas pour moi le seul conseil que je me donnerais et que je donnerais à toute personne qui cherche. Parce qu'en fait, les clés, elles sont en lui, elles sont en nous, en chacun de nous, les clés sont là. Et donc, consacrer du temps, de l'espace à cette recherche et avoir confiance.
Merci beaucoup Antoine pour cet échange. Encore une fois, très, très spécial pour moi, puisque je t'ai dit, tu m'as beaucoup inspiré par ton changement. Et puis je te dis à très bientôt.
Ben ouais, merci beaucoup à toi pour l'invitation. Merci pour cet échange. Je te disais, ça me touchait au début et puis j'ai pris plaisir à échanger avec toi. Donc je te remercie du fond du cœur pour cette invitation et pour ce moment passé ensemble. À bientôt.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Oser a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. À bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, osez !